Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le PDG du groupe Accor. Vos questions, amis auditeurs, on les attend au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Sébastien Bazin, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Vous êtes à la tête du premier groupe hôtelier européen. Vous avez un portefeuille de 39 marques du haut de gamme aux hôtels bon marché. Votre groupe est présent dans une centaine de pays. Vous avions reçu dans le 7-9 après le confinement. À l'époque, vous vouliez être positif, confiant, vous encouragiez les Français à retrouver pendant les grandes vacances le chemin des hôtels. On va faire le bilan de cet été dans quelques instants. Mais face à la deuxième vague de Covid, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin? Êtes-vous toujours aussi positif ou commencez-vous à être nettement plus inquiet pour votre secteur, l'hôtellerie, qui est tout de même frappé de plein fouet?
Je suis toujours aussi inquiet qu'au mois de juin. Je suis juste passé d'un sprint dans lequel je courais un 200 mètres, 800 mètres et on mettait tout dedans, notre énergie, une passion. On était positif, on allait à la ligne d'arrivée. Et là, je suis passé d'un sprint à un marathon. Et donc forcément, dans un marathon, on a des moments de fatigue où on a envie d'abandonner, mais c'est pas le moment. Donc oui, je suis pas dans la même course. Maintenant, on va s'en remettre. Le métier n'est pas mort. C'est juste très difficile en ce moment. C'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Ouais, c'est dur. Donc non, je suis toujours aussi optimiste. Peut-être un peu plus lucide sur la dureté du moment.
Ouais.
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que vous ne l'étiez pas assez lucide ?
Non, ça veut dire qu'à ce moment-là, je pensais que l'été allait nous permettre de rebondir. Ce qui était le cas. Hein. L'été s'est bien passé. Les Français ont été au rendez-vous. On n'a pas eu les clients internationaux. Paris, les capitales européennes ont été une catastrophe parce qu'il n'y avait pas la clientèle internationale. Et je pensais que ce rebond allait perdurer jusqu'à la fin de l'année. Et puis la deuxième vague est arrivée. Et donc voilà, donc j'avais probablement pas anticipé la force de cette deuxième vague.
Paris a été une catastrophe cet été, dites-vous, mais le reste de la France, c'était plutôt bien cet été ?
Tout le littoral s'est bien passé. Donc en fait, toutes les destinations Atlantique-Méditerranée ont été pratiquement aussi bonnes que l'année dernière, en tout cas dans la clientèle locale. Par contre, les prix n'étaient pas là parce que les voyageurs internationaux n'étaient pas là.
Les hôtels en ville sont-ils plus touchés que ceux à la campagne ou en bord de mer où la crise est la même partout ?
Non, les hôtels en ville qui dépendent de l'ouverture de nos frontières sont beaucoup plus touchés parce que ceux-là reçoivent une clientèle d'affaires internationale qui n'est pas là.
Mmh. Et puis dans votre portefeuille de marque, quels sont les hôtels qui souffrent le plus ? Le haut de gamme, le bas de gamme ou tout le monde ?
Le très haut de gamme, il est fermé. Parce qu'on n'ouvre pas les palaces. Le bas de gamme souffre moins, parce qu'en fait, c'est très lié aux petites entreprises, c'est-à-dire les plombiers, le bâtiment, la construction, qui, heureusement, sont là entre le dimanche soir et le jeudi soir. Mmh.
Est-ce que vous pouvez nous donner la photo précise, les chiffres pour l'été, le mois de septembre, le taux de remplissage de vos hôtels en France, la baisse de fréquentation sur un an ?
On est passé. Cet été, on était, par exemple, à moins 40% par rapport à l'été de l'année dernière. Au mois de mars-avril, on était à moins 90%. Donc, il y a eu un rebond. Mais forcément, les hôtels ont réouvert. Et on revient maintenant dans des chiffres qui sont au moins 60%. Donc on a eu un rebond qui a duré, 1er juillet jusqu'au 4 septembre. Mmh. Mais de courte durée.
Et là, le mois de septembre, mauvais, donc moins 60% de fréquentation.
Moins 60%, puis ça ne va pas aller en s'arrangeant avec le couvre-feu dans les semaines qui sont devant nous.
La Toussaint, vous misez un petit rebond ou non ?
La Toussaint, on n'en chiffre rien, parce que maintenant, les gens réservent à 4 jours de moment de leur départ. Mmh. Donc, en fait, on ne sait toujours pas. Ça ne va pas être très joli. Mmh.
Ça ne va pas être très joli. Vous dites, maintenant, en plus, il y a le couvre-feu. Vous le comprenez, ce couvre-feu, ou comme les restaurateurs, vous êtes en colère, Sébastien Bazin ?
Je pense que le monde est effondré. Nous sommes effondrés. En fait, on en a un peu ras-le-bol, on comprend la décision prise par le gouvernement, on comprend l'existence de cette pandémie, la deuxième vague. Maintenant, c'est compliqué pour nous de réagir, parce que chaque semaine qui passe, les chiffres disent quelque chose de différent. Une fois, c'était la faute des bars, puis des restaurateurs, puis après des universités, et puis des entreprises, et puis de la sphère privée. Bon, voilà, c'est peut-être et probablement la bonne raison. Mais pour nous, d'apprendre ça un mercredi par rapport à un vendredi soir, c'est terriblement compliqué. Maintenant, on a une chance dans les hôtels, c'est a priori nos restaurants d'hôtels restent ouverts, puisque notre client, il passe au deuxième ou au cinquième étage pour aller faire dodo. Et donc la chose que je voulais vous dire ce matin, c'est que Accor va proposer, grâce à mes propriétaires, de manière volontaire, aux restaurateurs qui le souhaitent, de venir chez nous, mettre leur marque, leur identité, leur concept, leur menu, leur nappe à carreaux, prendre possession avec nos brigades du restaurant de notre hôtel, accueillir leurs clients de quartier et faire en sorte que ses clients viennent faire dodo chez nous à un prix coûtant.
Mais en fait, échange de quoi vous leur offrez vos hôtels pour qu'ils viennent installer leur restaurant chez vous?
En fait, parce qu'on s'est serré les coudes depuis maintenant 7 mois, de manière très unie et soudée et responsable entre les bars, les restaurants, les hôteliers. C'est pas le moment de ne pas serrer les coudes. Donc si on peut les accueillir d'une manière ou d'une autre, encore une fois, mes propriétaires de manière volontaire vont choisir leur restaurant de quartier et les restaurateurs auront le choix de venir ou pas.
Mais c'est une idée. Donc ça commence à partir de là. Demain, vous allez appeler chaque propriétaire d'hôtel va aller voir le restaurateur.
Qu'il le souhaite.
Et lui proposer de venir ouvrir chez lui.
Avec un partage de marge. Mmh. Encore une fois, il va venir et puis probablement monter en compétence nos équipes. Donc voilà, on va jumeler nos efforts pour faire en sorte que les clientèles de ce restaurateur puissent venir, à condition bien sûr qu'ils respectent le couvre-feu, donc ils ne repartent pas. Mais auquel cas, il fera un dodo chez nous.
Sébastien Bazin, Dominique Seux en parlait hier dans son édito. Est-ce que vous demandez la possibilité d'effectuer des tests rapides à l'entrée de vos hôtels? Comme ça, tout le monde serait rassuré en quelques minutes. Dominique disait hier que les pouvoirs publics le refusent pour des questions de secret médical, mais pensez-vous qu'il faille bouger sur ce point, vous les hôteliers, mais plus largement les activités qui accueillent du public, concerts, rencontres sportives, quand on aura les tests rapides?
Mais on ne demande que ça. Et on demande aussi d'ailleurs qu'à les faire. Dès lors que le test est là, mis en place, y compris d'ailleurs dans les aéroports, on va être capable de réouvrir au plus grand nombre en testant les gens sur place, dès lors que la réponse est entre 15 minutes et 30 minutes, ça ne peut pas être 2 heures.
Mais il n'y a pas un problème avec le secret médical?
Mais je n'ai pas en plus de leur demander leur nom, je fais juste un test. Si le test n'est pas négatif, ils rentrent dans le restaurant.
Et s'il est positif?
S'il est positif, on leur dit et puis ils auront la gentillesse de ne pas rentrer.
Vous êtes présent dans le monde entier, le groupe Accor. Quels sont les pays qui souffrent le plus et ceux où vous en tirez le mieux? On voit la Chine repartir sur le plan économique, elle aligne un deuxième trimestre consécutif de croissance. Est-ce que ça vous permet d'équilibrer les pertes ailleurs? Quels sont les secteurs, les endroits dans le monde où ça va un peu mieux, disons?
Alors, 50% du groupe Accor est dépendant de l'Europe. En Europe, c'est la catastrophe. Et c'est la catastrophe parce que vous l'avez encore vu ce matin avec l'Irlande et le Pays de Galles. C'est une totale incohérence entre les mesures prises entre les États de l'Union. On n'a aucune idée de ce qui se passe entre Berlin, Francfort, Milan. Ce qui fait que pour le voyageur, c'est incompréhensible et donc il ne voyage pas. Donc il est grand temps, alors il paraît quelque chose qui s'appelle les affaires générales à la Commission européenne, qu'on mette au moins une procédure commune entre les différents pays. Parce que si au moins on pouvait voyager au sein de l'Europe, en respectant les gestes barrières et l'évolution de cette deuxième vague, on va être capable au moins de rivaliser avec la Chine en termes de taille et avec les États-Unis. Donc la Chine est repartie exactement comme elle l'était avant le Covid, en l'espace de 9 mois. Ce qui est plutôt un bon signe pour nous tous. Les États-Unis souffrent moins parce qu'ils ont 350 millions de clients dans un même territoire. L'Europe est l'endroit où on souffre le plus avec l'Amérique latine, c'est-à-dire Chili, Pérou, Colombie, c'est un désastre.
Justement, plus largement, Sébastien Bazin, à la place où vous êtes, celle d'un grand dirigeant économique, pensez-vous que les espérances de reprise et de relance de l'économie affichées dès l'an prochain par Bruno Le Maire, par le gouvernement, sont trop optimistes pour l'Europe, pour la France?
Franchement, je pense qu'on aura un rebond qui sera meilleur qu'attendu si l'épargne qui n'a pas été dépensée depuis maintenant un an et demi l'est. Donc en fait, c'est une question de confiance. En fait, c'est David Lisnard l'a dit l'autre jour, le maire de Cannes. On connaît le risque. On ne veut pas multiplier les incertitudes sur le risque. Et les incertitudes, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Chaque semaine ou tous les 3 jours, il y a un nouveau chef de gouvernement qui prend une nouvelle décision. Voilà, acceptons le risque, mais arrêtons de rajouter contrainte sur contrainte. Donc dès lors que les incertitudes s'estompent, même si le risque existe toujours et que la consommation reparte, vous pouvez avoir un rebond beaucoup plus fort que celui qui est attendu.
Sébastien Bazin, sur le front de l'emploi, la crise que vous traversez, ça veut dire quoi exactement? Vous avez annoncé 1000 suppressions de postes. Est-ce que vous confirmez ce chiffre et combien de suppressions de postes en France?
Nous avons 300 000 collaborateurs sous enseigne Accor. Il y a des gens qui travaillent dans les 5 000 établissements. Dans les 300 000, il y en a 80 000 en France. Dans les sièges sociaux, nous avons 6 000 personnes. Donc dans les sièges, il y aura une suppression entre 1 000 et 1 200 emplois, c'est-à-dire à peu près 20% du nombre de personnes dans les sièges. Et ce, partout dans le monde. On a commencé à prendre une décision qui est difficile, c'est qu'on a supprimé un échelon de décision, c'est-à-dire qu'on a supprimé les régions. Donc en supprimant les régions, vous supprimez les gens qui malheureusement travaillent dans ces régions. Et ça, ça fait partie des choses, comme vous parliez tout à l'heure sur est-ce que c'est dur. Le plus dur, c'est ça. C'est que j'ai demandé à 1000 personnes de partir, à un tiers des gens qui travaillent à côté de moi dans mon comité exécutif, sachant que ces personnes n'y sont pour rien. Que la conjoncture m'empêche de leur offrir un boulot sur les 2 ans, 3 ans qui viennent, que je dois aller chercher des coûts. Parce qu'on parle beaucoup d'aide de tout le monde. On dit que tous les gouvernements nous donnent et le chômage partiel, l'exonération.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Mais en dépit de toutes ces aides, Accor perd 1,5 milliard d'euros cette année. Ça montre bien qu'au-delà des aides, on continue à perdre de l'argent et à peu près 80 millions d'euros par mois.
Mais vous n'auriez pas pu ces 1000 personnes les mettre en chômage partiel et ne pas les licencier, par exemple ?
Non, parce que je n'ai pas, dans la conjoncture qui va repartir, malheureusement, on le sait tous, avec ce qui a très bien fonctionné sur Zoom, sur Webex, sur Teams, les voyageurs d'affaires probablement diminueront entre 10, 15, 20% de manière pérenne. Et donc, un grand champ de mon activité ne sera plus là d'un matin. Donc, il faut pivoter, il faut se réinventer. Et donc, je n'ai pas le même travail demain que j'avais hier.
Vous dites 1200 emplois donc, que vous allez supprimer. Combien en France ?
Là-dessus, probablement entre 300 et 400. Les emplois qui sont ce que j'appelle les petits salaires, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on a mis de côté un fonds qui s'appelle All Artists, qui aide ceux qui sont les plus défavorisés. Les petits salaires, on ne va pas leur demander de partir. Ils vont continuer à avoir un salaire pendant 2 ans au sein du groupe Accor, mais on va assurer pour eux une formation dans un autre métier que celui d'hôtellerie.
Lequel ?
Ils peuvent très bien devenir ébéniste, ou ils peuvent se mettre à être musicien, ou ils vont devenir plombier, ou ils seront artisans, et donc on va les former. Et puis peut-être que si ça repart beaucoup mieux qu'attendu, eh bien j'aurai un métier pour eux. Mais ne les mettons pas dehors pendant les 2 prochaines années.
Avez-vous bénéficié, Sébastien Bazin, du prêt garanti par l'État ? Et est-ce que vous l'avez utilisé ?
Non, Accor n'a pas demandé un prêt garanti par l'État, parce que Accor avait une grande chance, et qu'on a vendu une grande partie de notre parc immobilier, et Accor bénéficie aujourd'hui de 4 milliards d'euros de liquidités. Donc j'ai vraiment un genou par terre, mais heureusement nous n'avons pas les deux genoux par terre. Maintenant, dans la profession, vous avez beaucoup de gens qui sont à terre. Donc non, on n'a pas demandé de prêt garanti par l'État.
Symboliquement, vous êtes quand même sorti du CAC 40 en septembre dernier. Qu'est-ce que ça veut dire pour Accor de sortir du CAC 40 ?
Pour Accor, un sentiment de tristesse pour les fondateurs, parce qu'ils y étaient depuis le début. Pour moi et les collaborateurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous jaugez dans les yeux des autres en fonction de votre rang, vous êtes malheureux toute votre vie. Donc non, ça n'a aucune espèce d'importance.
Mais est-ce que vous surveillez vos devants, vos arrières, vos à-côtés, parce que des fonds vautours tournent autour d'Accor ? Est-ce qu'il y a une fragilité d'Accor ? Un risque pour Accor ?
Non, la seule chose que je surveille, c'est est-ce que mes hôtels peuvent être remplis ? Est-ce que mes propriétaires peuvent tenir le coup ? Non, rien. Rien de ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui m'empêche de dormir.
Pas de vautours qui tournent autour.
Mais ils sont peut-être là, mais ils ne sont pas venus picorer encore.
Marie est au standard. Donnons la parole aux auditeurs, aux auditrices d'Inter. Bonjour Marie, vous avez 23 ans, je crois.
Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur Bazin, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Donc j'ai fait 5 ans d'études et en hôtellerie de luxe notamment. Je voulais savoir Monsieur Bazin, quel message donc pour tous ces jeunes qui, comme moi, s'inquiètent pour l'avenir, qui s'inquiètent d'intégrer le marché du travail en pleine crise, qui envisagent de faire des petits boulots, chauffeur Uber. Vraiment, voilà. Aujourd'hui, c'est sur ça que je vous attends.
Vous posez aussi cette question-là de changer de voie, considérant ce qu'est aujourd'hui le contexte de l'hôtellerie et du tourisme.
Alors moi non, j'espère que je reste dans ma voie. Après, c'est vrai que j'ai la chance de travailler en conseil, en hôtellerie. Donc c'est pas les mêmes réalités que ce qui se passe actuellement dans les établissements. Mais je m'inquiète voilà pour mes amis, mes camarades, mes collègues avec qui j'ai pu travailler.
Bien compris Marie, merci pour votre intervention. Sébastien Bazin vous répond.
N'abandonnez pas Marie, c'est un beau métier celui de l'hôtellerie. Ça va repartir, je ne sais juste pas quand. Et puis il y a une des choses, je vous parlais de l'abandon du voyage d'affaires, mais un groupe comme les nôtres, on doit savoir pivoter comme font les startups digitales. Il y a une des choses sur lesquelles on va rentrer, on aura peut-être besoin de vous et de beaucoup d'entre vous, c'est de se dire, il y a une question qui est posée par les grandes entreprises aujourd'hui, c'est télétravail. Est-ce que je laisse mes collaborateurs chez eux ou est-ce que je leur demande de revenir au siège ? Heureusement, il y a une troisième solution sur laquelle on travaille ardemment, qui est la solution du tiers-lieu, c'est-à-dire de proposer aux DRH et aux directeurs généraux, eh bien vos collaborateurs, en tout cas pour Accor, sur les 2000 collaborateurs en Ile-de-France, 80% d'entre eux ont une enseigne Accor à moins de 20 minutes de chez eux, à pied, en vélo ou en voiture. Et donc on les accueille dans nos hôtels pour travailler. Et donc on voudrait proposer ça dans nos 5000 hôtels, c'est pour toutes les entreprises de peu importe leur taille, sous forme d'abonnement, qui puissent aujourd'hui utiliser nos bars, nos salles de réunion, nos toilettes, le wifi, et pourquoi pas des chambres, de pouvoir les repositionner de manière permanente en espace de travail. Mmh. Et donc pouvoir rendre service, si on fait ça, franchement il y aura du boulot pour beaucoup de personnes à l'avenir au sein du monde hôtelier.
Alors une question d'Olivier qui vient, je crois, de l'intérieur, on peut le dire ça comme ça, de l'intérieur du groupe Accor. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour. Non, je ne viens pas de l'intérieur du groupe Accor. Je suis simplement retraité et à ce titre, j'assume une partie de mes retraites en étant propriétaire de 2 appart-hôtels qui sont exploités par Accor. Voilà. Monsieur, vous refusez de payer les loyers des 3 mois de confinement aux propriétaires bailleurs comme moi, alors que par ailleurs, tous vos salariés ont été rémunérés pendant cette période au titre du chômage partiel qui a été payé par les contribuables.
Merci Olivier pour cette question. Mille excuses pour mon erreur. Sébastien Bazin vous répond.
Je vous réponds qu'on est en pleine discussion. Il y a deux segments sur lesquels on est aujourd'hui en pleine discussion avec vous tous. Il y en a un qui sont les loyers qui doivent être payés alors qu'il y a eu fermeture des hôtels pendant le mois d'avril, mai et juin. Et puis il y a la couverture ou pas des pertes d'exploitation par les assureurs. Il y a des cas très particuliers entre les gros propriétaires fonciers, les petits propriétaires comme vous-même. Pardon si ça n'a pas été payé. S'il n'a pas été payé, c'est parce que nous sommes en discussion et que le propriétaire n'avait pas les moyens de vous payer parce qu'il n'avait pas la trésorerie. Le groupe Accor, on est gestionnaire d'hôtels. Pour la plupart, nous ne sommes pas propriétaires de nos hôtels que nous gérons. Donc en fait, vous n'avez pas en face de vous le groupe que je représente. Vous avez en face de vous un de mes propriétaires avec lequel vous avez contracté. Donc j'espère qu'on va trouver une solution. Comprenez aussi que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en mesure aujourd'hui de payer les charges qui sont les leurs parce qu'ils n'ont pas eu de chiffre d'affaires et parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'aide. Les aides ont couvert le personnel, non, les aides de l'État n'ont pas couvert la couverture des loyers ainsi que d'autres charges. Donc voilà, c'est un fait.
Donc vous ne pouvez pas payer le monsieur ?
Non, probablement pas dans ce cas précis. Je ne sais pas qui est son propriétaire, c'est probablement une ancienne Accor, mais je ne suis pas son contractant.
Sébastien Bazin, lors du confinement, lors de la première vague, vous aviez mis à disposition 3 hôtels parisiens pour isoler les patients positifs au Covid. On se souvient, vous nous aviez réservé l'annonce. Quel bilan faites-vous de cette opération ? Est-ce que ça a marché ou pas du tout ?
Ça a pas bien marché, c'est pas du tout à cause de nous. Vous savez, le problème était, je vais identifier, je vais isoler, je vais protéger. Et donc, on avait mis à disposition des hôtels. Il y a eu 1500 nuitées qui ont été mises à disposition, c'est-à-dire à peu près 305 personnes qui sont isolées. La raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est pas parce que nous n'avions pas, nous, l'offre, elle était là. C'est parce que 90% des personnes qui ont été testées voulaient s'isoler chez eux et pas dans un établissement hôtelier. Donc, en fait, c'était une très bonne idée ou une noble idée, mais qui n'a pas été reçu comme tel par ceux qui étaient touchés par le virus.
Il y avait une autre idée, vous aviez mis à disposition des chambres d'hôtel à prix coûtant pour les soignants, mais aussi pour les femmes victimes de violences et les personnes sans domicile fixe. Ça s'appelait le dispositif SEDA, je crois. Ouais. Est-ce que ça a fonctionné de manière plus satisfaisante ?
Les deux ont très bien fonctionné. Le premier, tout ce qui était les personnes vulnérables, donc les femmes qui étaient battues et autres, 300 000 nuits d'hôtel ont été utilisés entre le mois de février et le mois de juin sur cette activité.
Donc, pour les femmes battues.
Pour les femmes battues, 300 000 nuitées. Après ça, pour les personnels soignants, ça a été 16 000 nuitées ont été utilisées par le personnel soignant. Oui, ça a très bien marché.
Mais pourtant, on a une question d'Héloïse sur la
l'application.
Bonjour, les hôtels ont été beaucoup mobilisés par les associations pour héberger les sans-abri pendant le confinement. C'est moins le cas depuis l'été parce que les hôtels le refusent de plus en plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je pense que pendant l'été, encore une fois, c'est de manière volontaire par nos propriétaires. Pendant l'été, juillet et août, ils ont essayé d'engranger du chiffre d'affaires avec la clientèle locale, ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de réouvrir cela, parce que malheureusement, la clientèle n'est pas là.
Une question au standard, on y retourne, de Malika à Saint-Denis. Bonjour Malika et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour, moi c'est Malika, je suis femme de chambre donc dans un hôtel Ibis parisien et je souhaite demander à monsieur Bazin ce qu'il compte faire en termes de négociation pour le cas des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Paris-Batignolles qui sont en sous-traitance et qui sont en grève depuis 15 mois, qui demandent la fin du paiement à la chambre parce qu'elles sont quand même à une cadence moyenne de 3 chambres et demie à l'heure, sans parler de la minoration de leurs droits sociaux, la mobilité à outrance, etc., etc. À quand la fin de la sous-traitance chez le groupe Accor ? À quand la fin de l'esclavage moderne chez le groupe Accor ? Surtout que ces femmes de chambre sont en grève depuis 15 mois et ça, vous ne pouvez pas l'ignorer, monsieur Bazin.
Merci Malika pour cette question. Les mots sont forts. Esclavage moderne, 15 mois de grève. Sébastien Bazin vous répond.
Je vous réponds que je suis parfaitement au courant de la situation, que encore une fois, la société avec laquelle vous travaillez n'est pas la société Accor, il se trouve qu'elle s'appelle STN. Nous avons, nous, aujourd'hui, 2/3 des femmes de chambre qui travaillent directement pour le groupe Accor, 1/3 qui sont en sous-traitance, dont l'Ibis Batignolles. On a essayé de trouver beaucoup de solutions, et je pense 92% ont été trouvées avec beaucoup de vos collègues, puisqu'il y en a à peine une douzaine de femmes de chambre sur les 60 qui sont aujourd'hui en grève, le reste ne sont plus en grève. Voilà, on va essayer de trouver la solution. J'essaye de me mettre d'accord avec la société STN. Mais STN est à genoux, comme toutes les entreprises de nettoyage qui dépendent de l'hôtellerie. Eux aussi souffrent terriblement. Et donc, on a demandé à ce que l'État intervienne. C'est un sujet éminemment compliqué. Vous savez, ma réponse, elle est la suivante. Un, je suis lucide. Ce que j'espère aujourd'hui, dans les années qui viennent, c'est que la charge de travail imposée aux femmes de chambre est telle, c'est un métier très dur, qu'on arrive avec nos clients à faire accepter que, pourquoi pas, certains de nos clients puissent avoir leur chambre lavée seulement une journée sur deux, et non pas tous les jours, de manière à diminuer le poids et le travail de la femme de chambre dans des conditions de rémunération identiques.
Ce serait acceptable, ça, pour les clients ?
Mais pourquoi pas ? Certains clients pourraient parfaitement l'accepter, dès lors qu'ils savent qu'en faisant cela, ils aident une catégorie qui est aujourd'hui très défavorisée, auxquelles les conditions de travail sont très dures. Il faut qu'on s'y mette tous, donc je suis parfaitement au courant. Je vous promets qu'on fait tous les efforts. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je crois aussi que l'organisation syndicale qui vous représente, je ne suis pas sûr qu'elle ait très envie d'aller trouver un accord.
Sébastien Bazin, comment vous arrivez à garder l'espoir ? Là, vous me disiez en rentrant dans le studio que beaucoup de restaurateurs vous appelaient en vous disant « Vous êtes notre porte-parole, parlez pour nous ». Comment on remobilise les troupes
Mais on les remobilise
quand tous les chiffres sont mauvais.
Mais parce qu'il faut s'extraire des chiffres, vous trouvez de l'espoir en vous d'abord, dans ce que vous allez puiser chez vous, et puis chez les autres. Nous restons le plus beau pays du monde. Nous restons la première destination au monde.
Oui, mais personne ne vient là.
Mais personne ne vient en ce moment. Il faut sortir des chiffres et il faut arriver à se projeter en disant « Préservons la gastronomie, la culture, les musées, les cinémas, les hôtels ». Tout ça va revenir, ça
le
va probablement revenir différemment.
Le gouvernement gère-t-il bien la crise à vos yeux ?
Le gouvernement fait tout ce qu'il peut en termes d'aide financière. Ce qui est compliqué pour les acteurs, c'est que les contraintes changent de semaine en semaine et les chiffres changent de semaine en semaine. Je vous l'ai dit, tout d'un coup c'est la faute des restaurateurs, puis des bars, puis des universités, puis de la sphère privée. C'est peut-être la faute de tout le monde. Mais à un moment donné, nous avons besoin de perspective, on a besoin de se projeter, donc on en a marre des contraintes. Donc laissez-nous travailler. C'est la seule chose qu'on demande, c'est de travailler.
Sébastien Bazin, au micro de France Inter ce matin. Merci d'être venu dans le 7-9. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Accor. Je vous donne le message d'une auditrice cet été, dit Chantal. J'ai fréquenté les hôtels, il faut être rassuré. Le personnel est très attentif, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Voilà, elle rassure les Français.
Et elle a raison, on a tout mis en place pour ça.
Je voulais vous le transmettre, ce message, avant la revue de presse.